France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 février. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'épilogue d'une présidence Trump sans précédent aux États-Unis. S'ouvre aujourd'hui le second procès en destitution de l'ex-président pour son rôle présumé dans les violences au Capitole. Nous serons en direct de Washington dès le début du journal. Après Agnès, les autres titres.
Le variant sud-africain à l'origine de plusieurs décès dans un EHPAD en Moselle. Impératif pour le gouvernement, le télétravail n'est pas sans risque, estime une étude publiée ce matin. Des écoles mobilisées contre l'expulsion d'élèves victimes des accords de Dublin. Une alerte au froid et à la neige dans un grand quart nord-ouest de la France. Enfin, il écrivait comme il respirait. Jean-Claude Carrière est mort, il avait 89 ans. Nous l'entendrons dans ce journal parler de sa passion pour le cinéma.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Avec son nouveau livre, L'inconnu de la Poste, elle s'impose comme la Truman Capote française, une écrivaine qui raconte avec un sens incroyable du détail et du suspense un fait divers dans une ville rurale française. L'assassinat de la postière, un acteur césarisé est impliqué, je vous dis que ça. Florence Omna nous raconte l'histoire à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouve pour le grand entretien à 8h20 avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et l'avocat Nicolas Bavraise. Il publie pour l'Institut Montaigne un rapport intitulé « Repenser la défense face aux crises du 21e siècle ». Vous pourrez évidemment dialoguer avec eux, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Ils ont été les témoins et les victimes de l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Ils en sont aujourd'hui les juges. Les sénateurs américains vont devoir se prononcer lors du procès en destitution de Donald Trump, poursuivi pour incitation à l'insurrection. Les avocats de l'ex-président dénoncent une accusation absurde quand les démocrates évoquent des preuves accablantes, notamment cet appel lancé par Donald Trump quelques heures avant le début des violences.
We're gonna walk down to the Capitol because you'll never... Take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Nous allons marcher sur le Capitole parce que vous ne pourrez jamais reprendre votre pays en étant faible. Il faut montrer de la force. Bonjour Grégory Philips.
Bonjour Agnès.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. Grégory, alors disons-le tout de suite, ce procès n'a que très peu de chances d'aboutir.
Non, parce que selon toute probabilité, Donald Trump devrait être acquitté à la fin de ce procès, comme il y a un an d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que une éventuelle condamnation se décide par un vote à la majorité des deux tiers du Sénat. On a aujourd'hui 50 sénateurs démocrates, 50 sénateurs républicains, et donc pour condamner Trump, il faudrait que 17 républicains décident de lâcher le président sortant. Tout laisse penser que ça n'arrivera pas, mais bon, les démocrates ont tout de même lancé cette procédure, estimant que Trump s'était livré à la pire violation de la Constitution jamais commise par un président américain.
Et alors, comment se défend Donald Trump, qui ne sera pas présent d'ailleurs aujourd'hui ?
Alors, ses avocats vont dire que ce procès est anticonstitutionnel, qu'on ne peut pas juger ainsi au Congrès un homme qui n'est plus président des États-Unis. Et ça va être le premier débat de cet après-midi. Il y a une certitude en tout cas, c'est que tout le monde veut un procès pas trop long pour les républicains. Il faudrait tourner la page dès ce soir pour les démocrates. Ce procès vient quand même parasiter le début de la présidence Biden. Et puis ça mobilise aussi tous les sénateurs et ça ralentit le calendrier législatif.
Merci Grégory Philips en direct de Washington pour France Inter.
Il est 7h04 Agnès. En France, les autorités sanitaires toujours très mobilisées contre les variants brésiliens et sud-africains du Covid.
Tous les habitants d'Aubonne dans le Val d'Oise sont invités à se faire dépister après la découverte hier de deux cas du variant sud-africain dans le collège Jules Ferry qui a tout de suite été fermé. En Moselle, ce sont les résidents d'une maison de retraite de Rémilly qui ont été affectés par ce variant. Deux en sont morts. Les résidents de cet EHPAD avaient reçu le mois dernier une première injection du vaccin Pfizer. Récit de Cécilia Arbona.
Ce mercredi 20 janvier, à la résidence Les Pins pour la Saint-Sébastien, c'était jour de piqûre générale. Aude Collignon, la directrice.
Ils ont tous été vaccinés et l'ensemble du personnel a également été vacciné. Nous avons deux décès. Il y a 10 résidents qui ont été confirmés Covid positifs et 5 salariés Covid positifs. C'était effectivement le variant sud-africain qui était présent dans mon établissement.
Le professeur Christian Rabot, épidémiologiste à l'hôpital de Nancy, prévient « Ce cas de figure va se reproduire, il va falloir s'adapter ».
Il faut environ 15 jours et même plutôt 3 semaines pour commencer à avoir développé une immunité puisque le vaccin ne peut pas protéger les gens de façon instantanée. En gros, aujourd'hui, la recommandation, vous vaccinez des gens dans une EHPAD. Ceux qui n'ont pas développé la Covid dans les 3 semaines qui suivent, ils ont leur deuxième dose. Ceux qui ont développé la Covid ont sursoi à la deuxième dose et on réfléchit aujourd'hui à savoir si on les revaccinera malgré tout 3 mois, 6 mois après ou encore plus tard. C'est des éléments sur lesquels on n'a pas encore le recul nécessaire.
À Rémilly, les visites de famille sont suspendues, les résidents positifs isolés dans leur chambre, les autres participent à des activités dans les couloirs. Hier, c'était mots fléchés et décoration de carnaval.
Cécilia Arbona. Et hier, c'est le ministre de la Santé qui, en tant que neurologue, a reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, recommandé pour les moins de 65 ans et dont l'efficacité contre le variant sud-africain est toujours à l'étude. La lutte contre la propagation du virus passe aussi par le télétravail. Elisabeth Borne doit s'entretenir aujourd'hui avec ceux qui avaient été qualifiés la semaine dernière de mauvais élèves, les secteurs de l'immobilier, de l'assurance, des banques, soupçonnés de ne pas assez favoriser ce télétravail. Pourtant, une étude que Malakoff Humanis publie aujourd'hui confirme que maintenir les salariés à domicile n'est pas sans risque. Maxime Debs.
Pour Anne-Sophie Godon de Malakoff Humanis, les salariés ont beau s'être organisés ces derniers temps, 11% de plus qu'il y a un an ont même désormais une pièce dédiée chez eux, eh bien...
Le tout télétravail reste complexe à mettre en œuvre. Le premier motif de retour sur site cité par 70% des salariés, c'est qu'ils ne peuvent pas exécuter certaines tâches à distance.
Le travail sur site qui présente comme avantage de donner à 56% des salariés interrogés le sentiment d'être plus engagés dans leurs tâches, plus efficaces en équipe. Bien que le télétravail présente pour eux aussi parfois de bons côtés, le fait qu'il ait atteint aujourd'hui 3,6 jours en moyenne par semaine, 2 de plus qu'avant crise, a aussi ses inconvénients.
On télétravaille plus que ce qui nous semble idéal. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un contexte extrêmement incertain. Hein, donc il y a une part finalement d'inquiétude dans cette situation qui reste forcée. Et puis il ne faut pas nier des risques pour la santé. Les salariés sont plus nombreux à nous dire que cette situation qui dure, elle a des conséquences sur leur santé physique et psychologique.
Salariés et dirigeants inquiets pour un tiers que le télétravail puisse devenir au moins partiellement obligatoire cette année et qui, autour des 60%, s'accordent à dire que le télétravail risque de créer de nouvelles fractures entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux dont les fonctions ne le permettent pas.
Et le bilan hier soir de Santé publique France fait état d'une pression qui s'accentue dans les hôpitaux. 28 000 malades hospitalisés, dont 3 353 en réanimation. Face à cette situation, le Parlement s'apprête à voter la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, malgré la réticence de nombreux élus, y compris au sein de la majorité.
7h08, on reparle ce matin des accords de Dublin.
Et des situations ubuesques qu'ils engendrent. Une fillette de 6 ans scolarisée en CP à Nanterre depuis la rentrée de septembre est menacée d'expulsion. Hélène, ses parents et son petit frère de 2 ans sont en effet sommés de quitter le territoire d'ici lundi prochain pour retourner en Suède, leur précédent lieu de résidence. Enseignants et parents d'élèves se mobilisent, Sébastien Sabiron.
C'est une famille discrète qui n'avait jamais fait part de ses difficultés, au point que Manon, l'institutrice d'Hélène, est tombée de haut la semaine dernière.
J'ai reçu un appel de la dame qui gère l'hôtel où ils sont logés pour me dire que Hélène et sa famille étaient menacées d'expulsion. Ça a été un choc autant pour moi que pour toute l'équipe.
D'autant qu'Hélène, scolarisée depuis moins de 6 mois, a fait d'immenses progrès.
Elle ne parlait pas un mot de français, rien. Maintenant, elle sait lire comme tous les autres CP. Elle veut pas partir, elle veut rester. En fait, cette petite fille, elle se sent bien ici.
Les parents d'élèves de l'école tentent de faire bloc autour de cette famille exilée. Sandra Marty, présidente de la FCPE.
Hélène, elle a 6 ans aujourd'hui. Elle est en train de se construire. Et d'un coup, on balaye tout ça. Quand on allume la télé, qu'on entend des cas comme ça, on se dit oui, ça existe. Là, voilà, c'est du concret. C'est la petite copine de nos enfants.
Avant d'arriver en France, la famille s'était vue refuser l'asile en Suède, ce qui, en vertu des accords de Dublin, lui interdit toute autre demande dans l'Union européenne. Philippe Nicolas représente le réseau Éducation sans frontières dans les Hauts-de-Seine.
Dans leur tête, évidemment, ils espèrent que la France va pouvoir les accepter. Et pourtant, effectivement, les accords de Dublin font que la France se contente de dire « Ah bah, vos empreintes digitales ont été prélevées en Suède, et bah du coup, on vous renvoie en Suède. » Ou le plus vraisemblable, c'est qu'ils seront réexpédiés vers l'Afghanistan.
Menacée dans son pays, la famille est en contact avec des avocats spécialistes du droit d'asile pour tenter un ultime recours avant expulsion.
Et même combat pour Fatimaté et sa famille dans le 18e arrondissement de Paris, menacée d'expulsion vers l'Italie. Une vague de froid et de neige en France. 23 départements d'un grand quart nord-ouest placés en vigilance orange ce matin. 5 à 10 cm de neige attendus, jusqu'à 15 cm localement sur le littoral breton. Et moins 6 degrés attendus ce matin également en Normandie. Comme hier sur le marché de Bricquebec où s'est rendu Raphaël Aubry de France Bleu Cotentin.
Les bonnets, les gants, les écharpes sont de sortie dans les allées.
Allez,
Ça va qui caille, hein ?
Ça caille. Élise achète des nems pour le déjeuner, toute grelottante devant le stand.
Par rapport à samedi, on a perdu 10 degrés, quoi. Voilà. Faut que le corps s'habitue à la perte de température.
Bah ouais. Le commerçant qui lui aussi s'est bien préparé dans son camion.
Je suis occupé, donc il n'y a pas de souci, donc ça me dérange pas le froid.
Là, vous avez la doudoune.
J'ai tout, la totale. Je mets ma petite radiateur pour les mains, donc voilà.
Un objet bien utile, surtout quand le thermomètre affiche 1 degré. Derrière son stand de fromage, Angela est moins abritée, mais elle a l'habitude.
On applique ce qu'on appelle la technique de l'oignon, on découche dans des couches, dans des couches, et du coup ça permet de pas avoir trop froid au corps. Par contre, les extrémités, ça morfle pas mal.
Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, merci.
Le froid, c'est mieux que la pluie, dit cet autre commerçant plus loin. Avis partagé par Jean-Louis.
C'est pas trop froid, parce que moi je préfère ça que l'humidité qu'on a eue ces derniers temps, et c'est beaucoup plus agréable comme ça.
Plus agréable, sauf qu'on ne s'attarde quand même pas sur le marché.
Là, je vais prendre mon pain et puis je rentre.
Et vous rentrez pour aller aux choses directement au
voilà,
camp du feu.
C'est ça, aller avec ma petite chienne.
Donc cet après-midi, vous ne sortez pas?
Peut-être avec la petite chienne, quand même, s'il neige pas.
Avant ça, place à un bon repas et un bon livre bien au chaud.
Raphaël Aubry de France Bleu Cotentin et les prévisions météo complètes de Marie-Pierre Planchon à 7h27. Il avait le goût des mots, de tous les mots. Jean-Claude Carrière, écrivain prolifique et scénariste de génie, s'est éteint hier soir dans son sommeil. Il avait 89 ans. Rien ne prédestinait ce fils de viticulteur de l'Hérault à entrer à Normal Sup. Élève brillant, il a bénéficié de bourses pour donner libre cours à son écriture. Il est l'auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages, comme ses dictionnaires amoureux de l'Inde ou du Mexique. Il a écrit des chansons pour Juliette Gréco et Brigitte Bardot. Et son nom figure au générique de classique du cinéma, De Belle de Jour au retour de Martin Guerre, qui lui vaudra d'ailleurs le César du meilleur scénario en 1983. Le cinéma, une véritable passion qu'il évoquait sur Inter avec Augustin Trapenard en 2019.
On assiste à une transition entre un cinéma dans les salles, où on allait se réunir tous ensemble, et une autre forme de cinéma. Mais que ce qu'on voit un film sur Netflix ou qu'on le voit sur son ordinateur ou qu'on le voit dans ça reste un film. Les conditions de rapprochement entre le film et nous changent et aussi l'environnement. Par exemple, on le sait très bien pour les films comiques. On rit dans une salle beaucoup plus que quand on est seul, parce que le rire est communicatif. Et c'est, on a, je rappelle des films avec Jacques Tati, avec Pierre Etex. On de temps en temps, on descendait dans une salle pour discrètement écouter nos rires. C'est merveilleux, et c'est un sentiment extraordinaire de voir une salle qui rit grâce à vous.
Jean-Claude Carrière, une voix et une écriture, extrait de Boomerang du 28 octobre 2019. On reviendra sur la mort de Jean-Claude Carrière dans le journal de 8h et dès à présent sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom aujourd'hui sur le harcèlement scolaire difficile pour toute la famille.